Vous entrez dans les ateliers de la nuit et vous écoutez Radio Julie. Vous êtes sur France Culture, mais vous ne savez pas ce que vous allez entendre. C'est une radio particulière ce soir. Une nouvelle voix prend le micro. Julie, pendant une heure, va faire entendre des sons de la vie. Pas de la radio de la vie, en direct. Depuis environ un an, Julie Biguet, de son deuxième prénom sénégalais, se sert du micro de son téléphone portable pendant ses séjours en hôpital psychiatrique. Elle joue à la journaliste. Elle recrée la radio à l'intérieur des chambres, dans les couloirs, dans le réfectoire. Elle donne la parole à ses voisins et voisines. Elle pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu fais en HP? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Et ce pourquoi sonne comme il n'a jamais sonné, comme il ne sonnera jamais dans nos bouches à nous. Ce ne sont pas des interviews, ce ne sont pas des interrogations, ce sont des adresses, des flèches, des vrais, d'elle à eux, de la radio qui ne se pense pas à radio, de la pure parole. Julie vit elle-même la maladie et en parle avec son amie Miyama, dans la cuisine, dans la rue, en marchant, sans arrêt, en action. Pas question que la schizophrénie soit un arrêt dans la vie. Continuer à parler. Elle en souffre depuis ses 23 ans, aujourd'hui elle en a 36, et on peut entendre dans sa voix à la fois l'ombre, le mystère et la pleine lumière. Radio Julie, Psychomicro, de Miyama, Lionel Quentin, et bien sûr Julie Biguet-Dieng, le micro est à elle.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Julie jusqu'à minuit. Ce que l'on va entendre pendant une heure, c'est les sons de ma vie, mes musiques, un petit séjour à l'hôpital psychiatrique avec mes voisines, mes voisins de chambre, mes vacances, mes nuits, mes joies, mes angoisses. Je vous emmènerai même au Sénégal. Mais pour l'instant, je vous convie chez moi, à Paris, avec Mia qui m'accompagne le long de cette émission. Cette entrée, elle est quand même très importante pour moi parce que je suis complètement obsédée par cet œil de bœuf. Donc, quand je fais des crises et que je crois qu'il y a des gens à l'intérieur, je regarde toujours derrière qu'est-ce qui se passe, qui passe et qui ne passe pas. Donc, c'est un endroit qu'on voit comme ça avec des bagages de partout, des manteaux, des chaussures. Ça n'a rien à voir, c'est une entrée. Personne passe du temps dans son entrée, sauf que moi, je passe du temps dans mon entrée parce que j'ai pis derrière la porte s'il y a quelqu'un qui m'en veut, s'il y a quelqu'un qui me cherche, s'il y a quelqu'un qui me fait du mal. Donc, du coup, c'est une pièce dans laquelle je passe quand même du temps. Ma pièce préférée, c'est la cuisine. Parce que je me réveille le matin. Le matin, pour moi, c'est hyper important. Ça désigne un petit peu comment je vais passer ma journée. Donc j'allume ma petite radio, je me fais mon petit café et je vois comment je me sens, si je me sens angoissée ou pas. En général, c'est une pièce où je me sens pas du tout angoissée. C'est là que je mange, c'est là que je prends mon petit café, c'est une cuisine américaine, donc ça me permet d'avoir aussi la vue sur le salon et avoir de l'espace au niveau de la vue. Et voilà, c'est là où je concocte mes petits plats, mon petit curry d'agneau, mon petit yassa, etc. Et c'est une cuisine qui est très agréable parce qu'il y a quand même 10 fenêtres chez moi. Et quand je suis assise là sur mon fauteuil rouge de princesse, de là, je vois toute la maison et je vois tout éclairé, toutes les lumières et c'est super agréable quoi. Et puis j'entends pas de voix dans cette cuisine. On va savoir pourquoi je n'entends pas de voix dans cette cuisine.
Julie ?
Ouais. Ah, ça, c'est ma grand-mère. Elle s'appelle Yaï Biguet. Et je m'appelle aussi Yaï Biguet. J'ai pris son nom. Et c'était une femme assez extraordinaire, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Et sa mère, à elle, elle était d'origine hollandaise. Irlandaise, pardon.
Donc elle était
métisse. Et t'as vu comment je suis noire, bleu marine ? Eh ben, j'avais une arrière-grand-mère qui était irlandaise. Et ça sent un petit peu, sur cette photo, tu la vois, elle est claire quand même par rapport à moi, ma grand-mère que tu vois là. Et voilà, donc je suis un peu irlandaise. Alors, les toilettes, c'est une pièce très spéciale pour moi. Parce que contrairement à la cuisine où il y a la création, où il y a la joie, où il y a l'apaisement, où il y a la lumière, ici c'est un moment où j'ai pas envie de passer de temps parce que j'entends les voix. J'entends beaucoup les voix ici et c'est là qu'elle me parle le plus et qu'elle m'agresse le plus. Et c'est très compliqué pour moi d'être aux toilettes. J'y vais vraiment souvent, je fais un aller-retour. Donc, c'est la pièce la plus détestée de cet appartement. D'ailleurs, on va sortir. Bon, là, on va passer vite fait à la salle de bain, mais vite fait, pardonnez-moi. J'ai une tonne de linge sale. Donc, on va rentrer vite fait. La salle de bain, difficile aussi, et en même temps, très agréable pour moi. Alors, difficile parce que c'est petit et qu'il y a l'eau. Et d'un autre côté, ça me rappelle mes premiers câlins avec ma maman quand elle me faisait des shampoings. Je me rappelle pas beaucoup de câlins avec elle, même si j'ai dû en avoir. Mais mes premiers souvenirs, ce sont pas avec elle. Les souvenirs de câlins, c'est pas avec elle. Mais parfois, je suis là, je me lave, et quand je me lave les cheveux et les oreilles et tout, je me rends compte que ça fait du bien parce que je retrouve un câlin ancien, quoi. Mais écoutez, on a fait le tour de la maison.
Tu as fumé une cigarette ?
Ouais, je fumais une cigarette.
Tu la fumes où d'habitude ?
Dans la cuisine.
Dans la cuisine ?
Ouais. Tu peux se poser dans la cuisine. Bon, on reviendra chez moi plus tard pour la pause clope, évidemment. Ce que je vous propose maintenant, et ne vous inquiétez pas, vous êtes avec moi, c'est de vous emmener dans un lieu où je passe beaucoup de temps, l'hôpital psychiatrique. En fait, un matin, je me suis réveillée dans ma chambre, je m'ennuyais terriblement. Et puis je me suis demandé pourquoi les autres patients étaient là. J'ai décidé de les interviewer. Bonsoir Babouchka.
Bonsoir.
Pas la peine de parler comme ça. Parler normalement. On est logiquement à la radio et tout va bien. On ne vous voit pas. D'accord. Comment allez-vous Babouchka ?
Bah écoutez bien, je suis contente de vous retrouver.
Bah de même. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites en HP ?
Bah on va commencer pour la dernière pathologie, sevrage de cocaïne.
Ah voilà, ça ouais. C'est du lourd.
Voilà, ça c'est du lourd. Donc à peu près 2 ans de prise de cocaïne intensive tous les jours. Et un jour un déclic et on veut arrêter pour protéger sa famille parce qu'on a conscience qu'on se fait peut-être du mal à soi-même, on s'en fout un petit peu. Et lorsqu'on se rend compte qu'on fait du mal à son entourage, là on est un petit peu plus coupable. Et c'est ce sentiment de culpabilité qui a fait que j'ai pris rendez-vous avec les services concernés et les praticiens et que je me retrouve en mon milieu hospitalier.
C'est la première fois que vous faites cette démarche pour vos addictions ?
Pour l'addiction, oui. J'avais déjà eu d'autres pathologies.
Comme
l'anorexie, il y a 17 ans de cela. Donc là, aujourd'hui, 34 ans. Mmh. Donc à 17 ans, j'avais été internée 8 mois. Également, on ne sait pas, pour des raisons sûrement qui remontent à l'enfance, il y a sûrement une souffrance en soi qu'on n'arrive pas à consolider. Une fois que j'ai cassé avec l'anorexie, j'ai eu le phénomène de dépression, et là aussi en 2006, dépression 2006, ou également retour au milieu hospitalier.
Donc tu travaillais beaucoup ?
Je travaillais beaucoup, oui.
Tu étais donc performante ?
Oui.
Parce qu'avec la coke, ça avance vite.
Voilà.
Ça réfléchit vite.
J'étais plus désinhibée, j'étais plus réactive, j'étais dans le plus. Et là, maintenant, bah, je suis dans le, entre guillemets, dans le moins.
Ou dans le normal, dans le standard.
Chose que je disais encore ce matin, dans le perdu.
Tu te sens perdue ?
Ouais, complètement perdue, complètement désorientée. Et c'est ce qu'on va essayer de travailler les prochains jours. Parce que là, c'est même pas le normal, quoi.
Donc là, tu peux pas travailler ?
Là, non. Là, je suis allée au bout de mes limites. Et je sentais que... Enfin, je sais pas, j'avais une appréhension de... À la limite, que je sois là ou que je sois pas là.
T'as des idées noires aussi ?
Non, ça, non.
Jamais de
non.
suicide, non, jamais pensé suicidaire.
Une grande fois, non, non.
La foi ?
La foi. Une envie de prendre plein de médicaments pour être bien, zen.
Pour se droguer, quoi.
Voilà, ouais, voilà.
Et pas pour se faire du mal.
Non, non.
Je t'ai jamais scarifié. Non,
jamais scarifié.
Tu t'es jamais piqué.
J'ai une grande foi. Jamais, aucune tentative de suicide. Aucune.
Bah tant mieux.
Aucune.
Tant mieux. C'est quoi tes projets ?
Mes projets ? Déjà que retrouver le rythme de travail, ce goût à la vie, ce goût au travail que j'avais quand j'avais 12, 13, 14 ans. Voilà. C'est vraiment ce que
les
je vais
les plus belles années
J'ai eu des belles années dans les années 20, quand j'avais 20 ans, elles étaient belles aussi, mais l'insouciance, retrouver l'insouciance. Et pas de se dire. J'aimerais bien être bien, mais avec des médicaments, quoi. Je sais pas, je pense que c'est possible. Parce que bon, on a tous des tristesses, mais je pense qu'on peut être bien sans médicaments. On peut rigoler, on peut.
De toute façon, on peut être aussi bien avec des médicaments.
Avec des médicaments.
Voilà, quand ils sont bien destinés à la pathologie, ça aide un peu. Et puis c'est vrai que voir des médecins, parler, c'est aussi une thérapie qui doit être...
Ça fait partie, effectivement, du parcours. Effectivement.
Continue. Cet été, je suis partie en vacances et c'est là-bas que j'ai commencé un petit journal sonore. Extrait. Cassis, 2h du matin, bord de l'eau, la mer. La mer qui représente pour moi beaucoup de menaces. C'est à travers l'eau que j'entends le plus de voix. Et je suis face à la mer. Et j'ai un peu peur. Et tout va bien. Je suis avec mes amis qui sont pas très loin. Le bruit qu'on entend, c'est le bruit de l'eau. Et quand j'entends l'eau, j'entends des voix. Écoutez ça. La vague qui monte et qui descend sur les graviers de Cassis. Un bruit qui m'est cher. Bien que j'entende les voix plus que d'habitude ou de coutume, j'apprécie ce va-et-vient de la mer jusqu'au sable, jusqu'au quai. J'entends des rires, je suis pas seule, tout va bien. Thank you.
et le chant des cigales.
Dammartin Gouel, de retour de Cassis. Les cigales, c'est fini. Pas de télé, pas de radio, pas de musique. Un peu compliqué. En général, je fais la prière musulmane qu'on nomme la Fatia, qui me permet de me calmer un peu. La voici. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Voilà. Ça, c'est des super souvenirs. Je me souviens qu'on se déhanchait sur les pistes de la Scala avec mes copines. Ça reste un super souvenir, on écoute. Bon, retourne à l'hôpital avec mes deux voisines. Le soir, on aimait bien se retrouver sur nos lits et papoter entre filles. Allez, je vous emmène. You wanted horror, but my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left the dead in the sea. It's better for me. I'm satisfied with that. En tout cas, avec les ponex, je suis mal.
Ouais.
Ah ouais.
T'es mal ou t'es bien?
Ça me donne envie de dormir. Dès que je le prends, j'ai envie de dormir.
Tu voulais nous poser d'autres questions?
Non, j'enregistre l'ambiance.
Enregistre l'ambiance.
À nous trois.
C'est la dernière ambiance au Club Med World
de l'hôpital psychiatrique. Et on n'est pas que zinzin.
Et pas que zinzin, non. Non. Moi, il faudra que je passe à la pharmacie pour me battre.
T'enregistres ?
Une batte contention avant toute chose.
Oh là là, il va faire chaud, tu vas mourir de chaud avec les battes contention.
Enfin, je vais les prendre, mais je vais pas les mettre aujourd'hui.
Toi, t'as les médicaments qui sont en train de te taper ou quoi?
Non.
Comment tu parles bizarrement?
Je tape bizarrement.
En tout, t'as combien de médicaments?
En tout, le matin, j'ai une fois sur deux gélules de Prozac et un Abilify de 15. Ensuite, j'avais du Valium 5. Ensuite, à midi, du Valium 10. Ensuite, en si besoin, du Valium 5. Le soir, du Valium 10. Et après, 4 trucs de Theralène. Et un Imovan.
Ils t'ont blindé.
Ah ouais,
donc tu prends plus de 5 médicaments par jour, toi?
Ouais.
T'as combien à 10, là?
Non.
Bah si, ça fait presque 10, tout ce qu'elle vient de dire.
Moi, j'ai Abilify, Prozac.
Ouais.
J'ai un Abilify de 10, 2 Prozac, 2 Valium 10 mg, Intersion 25, un Stilnox et 20 gouttes de Terralène.
C'est blindé, hein.
Ah, mais blindé.
Moi, j'ai 5 Léponex déjà, pour commencer. 5 Léponex, 2 Seroplex, 3 Losapac, 1 Imovan.
Mais le Zapac, c'est pas feu, c'est pas comme le Prozac, c'est...
C'est un peu comme le Xanax.
Ah ouais.
Mais en plus fort.
Ah, ça fait même bien, alors. Parce que je comprends pas pourquoi on me diminue d'un truc pour me réaugmenter de l'autre.
Je sais pas, parce que peut-être que la Bilify... Enfin, ça doit être un truc de posologie.
Ça doit, moi, je pense que c'est ça, parce que moi, j'ai vu... Par exemple, avec le Léponex, à un moment, je le combinais avec un autre médicament et j'entendais toujours les voix, ça me dérangeait toujours beaucoup. Mm-hmm. Maintenant qu'ils ont mis du Seroplex dans mon Léponex, ça va. Bon, je trouve que ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'arrive?
Il y a un moustique.
Ah bah c'est pas... Mais j'hallucine, là.
C'est pour ma gueule, c'est pour Bibi encore.
Il faut vraiment une aide, j'ai vraiment besoin d'une aide médicamenteuse parce que je trouve que les gens qui me donnent sont pas vraiment. Que t'as pâté, t'as envie de rien, les gens te. T'as l'impression d'être de visage.
Bah, on a de tension, hein, faut dire la vérité. Ouais. C'est vrai que ça se voit pas sur nos têtes qu'on est malade, ouais. Dieu merci. Ouais. Mais par contre, les effets secondaires sont fatidiques. Hein.
Ah,
moi, j'ai du mal.
Moi, j'ai le ventre qui gonfle, c'est si là. Là,
merde, elle va en lâcher une. Non, mais ce traitement est nauséeux. Regarde, on ressemble à... On est 3 belles filles.
Ouais.
Bon, toi, le squelette, là-bas, on parle pas de toi.
Non, mais...
Mais on est 3 belles filles.
On est obligé.
Et à cause de nos médicaments, on est moins jolies parce qu'on a pris tellement de poids. Ouais. Que c'est dur de... On est coquette, moi je vois, Aurore elle est coquette, Babouchka aussi, je sais que t'es super coquette. Ouais. Moi n'en parlons pas, je le suis aussi.
Ouais.
Et t'es déjà tombée enceinte?
Non, jamais.
Tu veux des enfants?
Bon, c'est compliqué parce que vers l'enfant c'est beaucoup de responsabilités, hein. Je suis très comme, même si je suis un peu comme ça, des glingos, je suis très très à terre. J'adore les enfants, mais en avoir, c'est beaucoup de responsabilités. Mmh. Et puis les élever, tu sais pas être dans le too much, dans le pas assez, le juste milieu. Super, super compliqué. Parce que si tu es sur couve, ils vont mal finir. Si t'es pas derrière un ordo, ils vont mal finir. Si t'es... Il faut le juste milieu, et le juste milieu dans tout, c'est ce qu'il y a de plus dur à atteindre.
Massez au bébé.
Non.
Qu'est-ce que tu dis à Tata?
Hein?
Qu'est-ce que tu dis à Tata? Bonjour Jane.
Bonjour Julie.
Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais en HP?
Eh bien, je suis en HP parce que là actuellement j'avais besoin de me retrouver dans un endroit neutre pour prendre du recul par rapport à mes mots.
Quels sont tes mots?
Alors je rigole parce que bah je sais pas, j'en ai tellement en fait que en gros je pourrais vous dire des grosses angoisses mais sans qu'il y ait de facteur déclencheur. Ça peut aller de la crise d'hystérie à la crise très morbide.
C'est-à-dire avec... vous avez des pensées suicidaires?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà essayé de vous tuer?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y a eu en 2009, il y a 4 ans, pile 4 ans, j'ai fait une intoxication au lithium. On m'avait mise sous lithium quelques mois plus tôt, puisqu'on m'avait diagnostiqué a priori bipolaire. Donc, j'étais sous lithium et un soir, j'en ai pris 170.
170 lithium.
170 comprimés, oui.
Les conséquences, ça a été quoi?
Ben, je me suis retrouvée en réa, dans le coma.
Combien de temps?
Un mois.
Un mois dans le coma. Mm. Vous vous rappelez de quelque chose?
Je me souviens d'être arrivée à l'hôpital sur mes jambes et consciente. Que j'ai très vite été placée dans une... Moi, je pensais qu'on allait m'envoyer en psychiatrie comme d'habitude, comme les autres fois. Qu'on allait me faire un lavage d'estomac, sauf que là je serais consciente. Et moi je comprenais pas pourquoi j'étais encore consciente en fait. Et je me suis retrouvée dans cette drôle de chambre avec des machines partout. Ma mère est arrivée et j'arrêtais pas de lui dire mais elle est bizarre cette chambre, elle est bizarre cette chambre. Et je comprenais pas que j'étais en réa en fait.
Donc un mois de coma, on se réveille, on est comment?
Je ne sais plus. Au début on entend juste. On entend, mais on sait, on se rend compte qu'on ne peut pas bouger, ni les bras, ni les jambes, ni la tête, qu'on ne peut pas parler. Donc c'est des sensations, c'est inexplicable. Après, on commence à voir. Vraiment, je pense que les sens, c'est très important à ce moment-là. Oui, on commence d'abord par entendre, puis par voir. Et bouger, alors ça se fait que très longtemps après.
Qu'est-ce qui se passe après?
Après, on se retrouve en centre de rééducation fonctionnelle pour réapprendre à se tenir assis, pour réapprendre à tenir une fourchette, pour réapprendre à boire, à se laver les dents, enfin tous les petits gestes du quotidien qu'on a perdu en ce qui est fou en 4 mois de réa quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec vos pieds? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors en fait je suis restée donc 4 mois et demi en réa parce qu'il y a eu beaucoup de complications au niveau de tous les organes vitaux et surtout j'ai fait donc de nombreux arrêts cardiaques. Et au moment des arrêts cardiaques on vous injecte de l'adrénaline pour redémarrer le cœur. Or, l'adrénaline à grosse quantité, ça empêche le sang d'irriguer les parties extrêmes du corps, donc les mains, tête et pieds. Et du coup, j'ai les pieds qu'on écrosait, j'ai perdu mes cheveux et j'avais aussi les doigts nécrosés.
Ce que vous appelez nécrosés, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer?
Ça gangrène, c'est noir.
Ça gangrène, d'accord.
C'est noir comme du charbon.
Ça vous fait quoi quand vous regardez dans le miroir?
Ça fait que très peu de temps que je me reconnais. Au début, je dirais presque la première année, je ne me suis pas du tout regardée.
Ça vous fait quoi quand vous voyez?
Maintenant, je me sens différente d'avant cette tentative de suicide. Je suis moins lumineuse, je suis... J'ai pris un coup, quoi. C'est tout simplement, c'est ça. Mais au-delà de ça, oui, non, c'est toutes ces marques qui me ramènent, me ramènent à la réa qui a été la pire expérience de ma vie.
Ouais.
C'est surtout ça.
Ok.
Au-delà de l'esthétisme.
Ok, Jenny. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt. I'm tripping out.
Il est 4h du matin, insomnie. Je voulais m'endormir dans le silence, c'est-à-dire sans télé, sans radio. Mais c'est un peu compliqué pour moi. J'ai un rituel, je prends mes médicaments juste avant de coucher. J'en suis à 7 par jour au lieu de 22 d'il y a quelques mois. Donc, je suis assez contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En espérant que je vais pouvoir dormir dans pas longtemps. Je suis un peu malade, c'est pour ça que je ne me suis pas enregistrée. J'ai une bronchite, c'est très très rare que je sois malade. À part malade du crâne, je suis pas malade. Et donc, j'ai perdu un peu ma voix. Voilà, donc c'était le rituel des médicaments. 7 au lieu de 22, je suis très fière de moi. You got me trippin' out over you, babe. Tripping out, tripping out over you. Come on. Come on. Ne décrochez pas, vous êtes toujours sur Radio Julie. Il nous reste une demi-heure ensemble. Allez, on va fumer une petite clope dans la cuisine avec Mia. Les oiseaux et les pas des gens. Je peux regarder?
Qu'est-ce que t'aimes dans ce quartier?
Les parcs. J'aime bien me balader dans les rues où il n'y a personne. J'aime bien aller voir ma mamie qui m'a nourrie. Enfin, c'est la deuxième personne qui m'a accueillie à la DAS quand j'étais petite, que j'ai retrouvée en habitant ici puisqu'elle n'a pas déménagé. Et du coup, je bois du rhum avec elle, on discute et ça se passe super bien. Et elle a 91 ans et elle est super. Elle est vraiment super. Mais son rhum est vraiment trop fort. Mais elle aborde à chaque fois. Donc j'aime bien aller la voir, ça me rappelle des souvenirs.
Donc en fait cet endroit c'est un lieu chargé de mémoire en fait.
Chargé de mémoire effectivement, et quand je suis arrivée dans cet appartement au début j'étais bien et je pense que ça m'a aussi fait rechuter des odeurs, les parfums des rues, les gens, les rues, le nom des rues, mamie que je retrouve. Et qui me raconte des histoires de quand j'étais petite. Tout ça, ça m'a. Sur le coup, j'ai cru que ça me faisait rien, mais en fait, ça m'a bouleversée. En partie, c'est pour ça que j'ai aussi rechuté, je pense. C'est bizarre parce que ma mère est venue pour la première fois à la maison il y a 2 jours. Et depuis que j'habite ici, elle n'était jamais venue, parce qu'elle voulait pas rencontrer mon compagnon. Et ça m'a fait plaisir de la recevoir à la maison. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est beau chez toi, qu'est-ce qu'on sent bien chez toi. Et ça m'a fait plaisir que l'écho que j'ai, moi, de cet appart, apparaisse aussi à travers les dires de ma mère. Et c'est compliqué la relation que j'ai avec ma mère et cette maladie. Par exemple, quand je parle de mes mots, me dit, oh, mais tu sais, j'ai vu une émission à la télé qui parlait de ça, etc. Mais elle parle de la maladie à travers les expériences des autres. Mais moi, elle ne m'écoute pas entièrement, en fait. C'est assez spécial. Et là, elle commence de plus en plus à m'écouter. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te rappelle? Qu'est-ce qui te brutalise? Pourquoi t'es comme ça? Ça me fait du bien. La seule chose qui est spéciale, c'est qu'elle n'arrive pas à dire schizophrénie. Alors, c'est pas parce que c'est une Sénégalaise et que schizophrénie, c'est dur à dire. mais c'est vrai que quand elle parle de moi à des gens, elle dit que je suis dépressive. Elle ne peut pas dire que je suis schizophrène. Elle ne peut pas.
Et quand elle t'a envoyée au Sénégal pour te guérir, par exemple, qu'est-ce qu'elle disait là-bas?
Que j'étais maraboutée. C'est pour ça que j'étais souvent au Sénégal. Et on m'a fait faire des choses de dingue. Moi, je me rappelle la première fois, j'étais avec Patrice, qui est mon grand frère et qui est encore sur le fauteuil roulant. Et en fait, on nous emmène tous les deux sur la plage. Moi, j'étais vraiment out. J'entendais des voix partout. Je hurlais sur tout le monde. Je disais qu'on me voulait du mal, qu'on voulait me tuer, qu'on voulait me violer, me scarifier. Et c'était hyper puissant. Et j'étais avec Patrice, on était sur la plage. Et là, il commence à égorger un mouton devant nous. Et moi, il m'emmène dans l'eau jusqu'au genou et commence à renverser le sang chaud sur moi, comme ça, directement. Et je crie, et je me retourne et je vois Patrice, il rigole. Et je lui dis, mais c'est un salaud, mais putain, il rigolait. Et puis après, je sors de l'eau, je suis complètement traumatisée, j'ai du sang de chèvre partout sur moi, il est chaud, il vient de mourir, l'agneau vient de mourir, et tout, c'est juste affreux. Et à un moment, le marabout se retourne vers lui, il fait « Allez, maintenant, à ton tour. » Et je vois Patrice qui s'accroche à son fauteuil roulant et qui est là « Non, 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 non !» Et moi, je me retourne et je rigole. Et on a eu des passages tumultueux avec Patrice. Après, on a été voir un autre marabout. Enfin, il est arrivé à 7h du matin. À 7h du matin, il y avait déjà 50 personnes qui attendaient devant la maison du gars, quoi, du marabout. Et puis on dit bon, on va commencer par Patrice puisque c'est lui à la base qui est le plus touché par la maladie. Et donc le mec commence à sortir une lame et commence à scarifier Patrice comme ça avec la lame, mais sans qu'il saigne, sans que ça fasse de marque, mais il prononce des paroles et puis il le scarifie sur les bras, il le scarifie sur le torse. Et moi je me dis mais Patso, qu'est-ce que ça fait et tout, mais Patso, mais pourquoi tu fais ça, laisse tomber, on arrête. Je lui fais, ça fait mal? Il me fait, non, ça fait pas mal. Je fais, bon. Il me fait, bah, c'est à ton tour maintenant. Je fais, bon, bah, ok, je vais essayer. Et là, le mec, il commence à me scarifier. Je suis là, aïe. Ça faisait trop mal. C'était horrible. Ça faisait trop mal. Et Patrice, il rigolait à nouveau. Je fais, mais pourquoi tu m'as pas dit que ça faisait aussi mal? Il m'a dit, bah, parce que sinon, tu l'aurais pas fait. Et je l'ai tué après. C'était, donc voilà, on a fait ça. On a été dans un village où il y avait que des araignées. Ils étaient censés soigner les gens. Ouais, les marabouts. Alors, eux, ils disent que je suis possédée par un djinn qui est amoureux de moi. Un djinn, dans la religion musulmane, c'est une créature créée par Dieu qui vit avec nous, qui dort avec nous, qui mange avec nous, qui vont aux toilettes avec nous, qui sont toujours avec nous, mais que nous ne pouvons pas percevoir à l'œil nu. Et ils disent que les voix que j'entends sont des djinns et qui sont là pour s'amuser. Et que leur but extrême et leur plaisir extrême, c'est de terroriser les êtres humains. Alors, il y a des bons djinns et il y a des mauvais djinns. Et malheureusement, moi, je suis attaquée par les mauvais djinns. Et il y en a un d'eux qui est amoureux de moi. Et dans mes rêves, je perçois que je fais l'amour avec un djinn. Et un djinn, comme je l'ai vu, c'est une créature avec la peau complètement brûlée, avec une bouche, quand elle est ouverte, avec 5 ou 6 rangées de dents. Donc une grosse bouche qui s'ouvre et qui vit dans le feu, en fait. C'est ce que j'ai vu. Et qui a fait l'amour avec moi dans mon rêve. Donc, du coup, la prière a beaucoup d'importance pour moi. Puisque c'est Dieu qui les a créés. C'est aussi Dieu qui peut faire qu'ils soient loin de moi. Et du coup, je fais une prière, 2-3 prières que j'ai appris en arabe, parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus puissant. Et dès que je suis en panique et que j'ai aucun moyen de recours pour baisser la crise ou d'affronter le djinn, je fais la fatia, je fais le kulu à la ouahat, je fais nas, une prière qui s'appelle nas, et franchement ça marche à tous les coups. À chaque fois je me sens apaisée, ça me fait du bien et je me sens protégée par Dieu, et Dieu est très présent dans ma vie. Même un truc à deux balles, par exemple, j'arrive à la station de métro, j'ai le métro tout de suite, je dis merci mon Dieu. Quand j'ai quelque chose qui va pas pour moi, je dis merci mon Dieu, aidez-moi. Il est très 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 présent dans ma vie. Dieu est plus... Bah, et puis Dieu, il n'y a pas d'effet secondaire. Parce que c'est un axe, hein, merci bien. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayri maghdubi 'alayhim wa la dhallin. Amin. Est-ce que j'ai déjà fait des crises devant toi?
Ouais, mais très intériorisé.
Ouais, je me cachais. Je me rappelle te dire... Ouais, tu le sentais. Comment tu le sentais?
Moi, je le vois parfois quand t'es en train de partir.
Ouais.
Je vois que tu luttes pour m'écouter, pour m'entendre.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme je suis parasitée et que je veux quand même être dans le monde réel. Quand je discute avec quelqu'un et que derrière, ça bourgeonne dans ma tête, c'est très compliqué pour moi d'avoir une double conversation, parce que je suis en train de te parler, je te regarde, je suis en train de te parler, je sais ce que je te dis, je sais ce que tu me dis, mais en attendant, je suis en train de parler avec les voix, leur disant « bande de connasses, laissez-moi tranquille, de toute façon, ce que vous dites, c'est pas vrai. » Et puis, je fais une double conversation. Donc, parfois, j'ai les yeux qui partent un peu, parce que je suis en train de parler à deux personnes en même temps qui sont dans deux univers différents. Et ça, c'est très étrange, très, très étrange. Alors j'ai juste voulu acheter du café et du sucre, c'était une tannée pour y aller. J'avais mis mes écouteurs, heureusement j'entendais la radio, toujours. Puis le comble du comble, c'est que j'entends des voix et je mets la radio ou la télé qui sont des voix pour combler mes voix. C'est super étrange ça. J'entends des voix et je les comble par d'autres voix. Pas comprendre. Ça, c'est un son qui fait du bien. À Julie Billet Jung. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. lucky. We're up all night to get 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 lucky. We're up all night again. 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 Radio Julie, on continue la balade avec Aurore.
Comment ça se passe pour toi? Tes amis, ta famille, ils sont proches de toi?
Je suis très proche de mon père, à la limite du pathologique.
C'est-à-dire?
C'est le seul homme dans ma vie. Voilà, comme une petite fille. Et sinon, j'ai beaucoup d'amis virtuels. J'en ai 164.
Sur Facebook.
Sur Facebook. Et sinon, j'ai des contacts téléphoniques avec mes amis proches, mais je veux plus voir personne tant que j'ai pas perdu du poids.
C'est une obsession pour vous, ce poids?
Une obsession, oui. Et particulièrement aujourd'hui, ça va pas du tout. Je sais plus quoi faire, quoi. Enfin, je me reconnais plus, je supporte plus mon corps. Et j'ai l'impression que j'ai peur de... Enfin, ma séquentielle s'arrête... Enfin, mon hospitalisation s'arrête demain. Et j'ai peur de déconner.
Déconner dans quel sens?
De reprendre des toxiques.
Alcool, coke.
Coke.
Médicaments.
Pour maigrir.
Pour maigrir?
Ouais.
Parce que quand on se prend la cocaïne, on maigrit?
On mange plus, donc on est comme ça. Et voilà, quoi.
Mais ça trotte dans ta tête?
Ouais.
Dis-moi, j'aperçois des cicatrices sur tes bras. C'est quoi?
C'est des scarifications qui datent de début 2005.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. J'habitais à l'époque chez ma mère à Vincennes. Et bon, je buvais déjà de l'alcool, mais pas autant qu'après. Je commençais à boire. Et je me scarifiais les bras et ça me faisait du bien. Je voyais le sang couler et ça me faisait du bien.
Ça te rassurait?
Ça me soulageait.
Et ça te soulageait de quoi?
De ma souffrance.
Quelle souffrance? C'est quoi ta souffrance?
C'est l'angoisse de... Je sais pas. Justement, demain, je dois recommencer une thérapie. Pour mettre des mots sur mes mots. Je sais pas, le mal de vivre, comme dirait Barbara, mais
voilà. Vos projets, c'est quoi?
Mes projets, c'est à court terme, à moyen terme, retravailler, reprendre une vie active, normale, me lever le matin, rentrer le soir.
Ça te manque, ça?
Oui.
Tu t'ennuies?
Je m'ennuie énormément.
Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper?
Je vais sur Facebook.
Tu penses que tu vas t'en sortir comment cette prochaine semaine qui arrive?
Je vais bien prendre mes médicaments. Je sais pas.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by.
Je sors de la supérette un peu chargée. Je me sens pas très bien. Je me sens suivie.
Et pourtant, je suis dans un endroit calme et idyllique pour passer un bon moment à la campagne avec Olivia. On entend les voisins, les enfants qui jouent à côté. C'est plutôt agréable. Tout en parlant, je me rends compte que je me détends. Ça me fait du bien d'entendre ma voix. Ça me rassure. C'est la mienne. Ah, Dionne Warwick avec Welcome By. On traîne pas, on retourne une dernière fois en HP avec Christian, que j'ai enregistré à l'improviste avec mon téléphone.
Alors, je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants. J'ai deux parents juifs orthodoxes. Je suis homosexuel. Et mon père, comme thérapie, étant donné que mes deux parents sont psychiatres, m'a envoyé en hôpital psychiatrique. Donc, lorsque j'ai eu ma majorité, j'ai quitté les institutions pédopsychiatriques. Je me suis marié avec la première femme que j'ai trouvée. Je lui ai fait 4 gosses. Et après, j'ai vécu ma vie. J'ai passé mon agrégation de philo. Après, mon habilité à professer. Maintenant, j'enseigne à Paris 1 l'histoire des idées politiques. Et je vis avec un très jeune homme de 23 ans. Et voilà.
Donc vous êtes apparemment éperdument amoureux.
Tout à fait.
Vous l'aimez plus que votre femme?
Largement. Mais j'aime beaucoup ma femme aussi.
Ça, on n'en doute pas. L'idée, c'est pourquoi l'HP, alors que vous avez suivi une vie un peu standard, je fais des grandes études, je me marie, je fais des enfants, j'assume mon coming back et coming out, et finalement, je me retrouve quand même en HP. Il se passe quoi, là?
Ouais, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Il y a trop de travail, trop d'émotions, trop de changements dans ma vie, la perte des repères.
La perte?
Des repères.
D'accord.
Le dawa, quoi. C'est le dawa dans ma vie. Donc, je suis venu en HP me poser.
En fait, tout ce dont vous venez nous dire, c'est que vous êtes épuisé, tout simplement.
Exactement. Je suis très fatigué. En plus, j'ai des problèmes somatiques, donc j'essaie de tout régler en même temps pour repartir en pleine forme pour le 30 mai où je vais me paxer. Donc, voilà.
Écoutez, je suis ravie de savoir que vous allez vous paxer. Et aussi, je suis ravie de savoir aussi que l'HP n'est pas destiné forcément à une pathologie ou à une maladie. C'est juste, en fait, vous êtes venu faire une cure de sommeil ici.
Je suis venu me reposer et me changer les idées.
Ça a marché ou pas?
Bah pas trop, je suis assez monomaniaque et j'ai un homme dans ma vie, donc. Voilà. Comme ça, vous savez tout.
Vous assumez le fait d'être là?
Oui. Ah oui, parfaitement. Oui.
Vous en avez parlé à vos amis, à votre famille, à vos proches?
À tout le monde, sauf à mes parents.
Alors, pourquoi les parents? Parce qu'on en a peur ou parce qu'on veut pas les inquiéter?
Parce qu'ils sont psychiatres. Et c'est une excellente raison, croyez-moi, le pathos du médecin, c'est terrible. Hein.
C'était Radio Julie, Psycho Micro,
Un grand merci à Babouchka, Aurore, Jen, Christian et tous ceux que j'ai pu interviewer à l'hôpital. Mixage, Bruno Morland. Réalisation, Lionel Quentin. Équipe de coordination, Irène Omelianenko, Inès De Bruyne et Alice Ramon. Un atelier de la création de Julie Biguet-Diang et Miyama. On va se quitter. Il est presque minuit. J'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez au miracle? Moi, oui.
Nous croyons aussi au miracle et à tous ceux que Julie a mis au jour ce soir dans Radio Julie, une parole peu entendue, peu habituelle, que vous pouvez réécouter, podcaster sur le site internet de France Culture. Prochain atelier de création, dimanche prochain à 22h, nous partons dans une zone étrange qui a toujours suscité la fascination, la zone de silence au Mexique, sur le même parallèle que le triangle des Bermudes. On dit que les signaux radio cesseraient d'émettre. On dit que les boussoles perdraient le nord. Amandine Casadamon et Angélique Thibault sont parties dans cette zone enregistrer ce fameux silence. Vous écoutez France Culture, il est 23h et c'est l'heure des nuits.